Entendu, des confs à écouter. Séminaire faits didactiques et éducation à. Dans ce premier épisode, Bérangère Stassin s'interroge sur les moyens à mettre en œuvre par l'école pour lutter contre le cyberharcèlement. Cette conférence d'octobre 2019 est introduite par Sylvie Pierre, responsable du séminaire. Bérangère Stassin est enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine.
Bonjour. Merci de venir au premier séminaire, donc faits didactiques et éducation A. Je vais rappeler les objectifs de ce séminaire et ensuite présenter notre intervenante d'aujourd'hui. Donc, je rappelle que le séminaire est un séminaire de recherche qui se déroule dans le cadre du Centre de recherche sur les médiations, le CREM. Et il réunit depuis 2015 des chercheurs de ce laboratoire, mais aussi d'autres laboratoires universitaires, autour d'une thématique commune. Nous avons choisi les éducations A, qui sont fondées sur la prise en compte des questions des épistémologies des savoirs, des rapports science-société-circulation des savoirs, et cela concerne les questions de territoire, les questions de coéducation, appropriation des enjeux par les acteurs, en particulier aussi les controverses médiatiques liées à ces objets, par exemple éducation au développement durable, éducation aux médias, pour ne citer que, mais également prendre en compte les questions de l'innovation pédagogique, école hors école. Ces questions sociétales et objets de cette éducation, outre qu'elles figurent dans les programmes, nécessitent une approche globale, complexe et pluridisciplinaire. Alors, nous avons choisi de nous intéresser cette année aux questions essentielles de l'esprit critique et de la formation au jugement. 5 rencontres sont proposées cette année dans le cadre de ce séminaire qui se déroule, je le rappelle, sur les sites de l'INSPE, soit Maxéville, soit Montigny, les Metz. Il faut regarder le programme pour donc connaître les localisations. Ce séminaire permet aux chercheurs confirmés, mais aussi débutants que vous êtes, si vous êtes dans le master, chercheurs associés, doctorants de l'unité de recherche, de présenter des travaux en cours, de les discuter, mais aussi d'accueillir des chercheurs extérieurs à l'équipe. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bérangère Stassin. Bérangère est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Elle est rattachée au CREM, au Centre de recherche sur les médiations. Et ses travaux portent particulièrement sur le cyberharcèlement à l'école. Et donc aujourd'hui, elle nous présente une communication intitulée « Quelles éducations A pour lutter contre le cyberharcèlement à l'école ». Je lui laisse donc la parole et je la remercie d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre séminaire.
Merci à toi, Sylvie, de m'inviter à parler donc, de cette thématique très importante. Et déjà, je vous salue tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du cyberharcèlement et nécessairement du harcèlement scolaire, puisqu'on ne va pas pouvoir distinguer le harcèlement du cyberharcèlement. On verra tout au long de mon intervention que ce sont bien souvent les deux faces d'une même pièce et qu'en tant qu'éducateur, chercheur, professeur, il est important, je pense, d'aborder ces deux phénomènes en même temps et de proposer des éducations à qui vont apporter des solutions à la fois pour la violence traditionnelle, le harcèlement scolaire, et également pour cette nouvelle forme de violence qu'est la cyberviolence. Alors, première diapo. Je commence toujours mes interventions sur le cyberharcèlement scolaire par cette diapo. Donc vous reconnaissez au milieu les différents médias sociaux, tous ces dispositifs qui participent de ce qu'on appelle le web 2.0. Donc les réseaux sociaux, les médias comme YouTube, Instagram, Google, Wikipédia, Snapchat, etc. etc. Avec d'un côté, on reconnaît les bisounours et de l'autre côté, l'apocalypse. Alors pourquoi je fais toujours cette diapo? Eh bien parce qu'il faut savoir, et vous le savez sans doute, que le web 2.0, les réseaux sociaux et notamment les adolescents et les réseaux sociaux sont entourés dans la société de discours très technicistes qui oscillent entre une vision très apocalyptique du phénomène et une vision très positif, bisounours des réseaux sociaux. Ça, c'est propre à toute nouvelle technologie. À chaque fois qu'il y a de l'innovation technique, technologique dans la société, ces innovations sont toujours encadrées de discours euphorique ou catastrophique. Donc dans le discours apocalyptique, on va entendre des choses comme « Ah là là, les jeunes, ils communiquent plus, ils sont toujours derrière les écrans, ils font n'importe quoi, ils pensent qu'à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. » Et puis la version bisounours, c'est tous les discours de type oh, « Mais comment on a fait pour vivre autant d'années sans Facebook ? C'est génial le web, c'est vraiment merveilleux, c'est révolutionnaire. Ah les jeunes, ils sont nés avec un clavier dans les mains, ils savent tout faire. Oh là là, mon fils, il tape en 30 secondes sur Internet, il m'explique plein de choses. » Bon, comme si d'un côté, voilà, c'était des adolescents qui allaient vraiment, qui marchaient progressivement vers leur perte, et de l'autre côté, des adolescents finalement qui savent tout faire. On n'a même plus besoin de leur expliquer comment ça fonctionne. Donc moi, forcément, je vais vous parler du cyberharcèlement. Donc je vais placer la focale quand même principalement du côté obscur des réseaux sociaux. Hein. C'est des dérives. Ce ne sont que des dérives, bien évidemment. Et l'idée, c'est que voilà, on sorte du séminaire avec une vision, on va dire, centrale. Sachant qu'effectivement, le web, on le sait, ça comporte des dérives et des risques hein, pour les adolescents, mais également pour nous, les adultes. Mais c'est aussi un merveilleux outil de communication, de médiation des savoirs, de partage de connaissances, valorisation de compétences, etc. Donc voilà pour ce propos liminaire. Donc maintenant, je vais vous parler du harcèlement et du cyberharcèlement. Et mon idée, c'est de commencer par vous expliquer quand et comment en France on en est venu à parler de manière très médiatisée de ce phénomène de harcèlement scolaire. Il faut savoir que dans les pays scandinaves, en Norvège et en Suède, la problématique du harcèlement scolaire, elle est connue et traitée depuis les années 70, depuis les années 80 pour les pays anglo-saxons. Et nous, en France, on ne sort le harcèlement scolaire des débats sur la violence scolaire en général qu'à partir du début des années 2010. Donc vous voyez, on a 40 ans de retard avec nos voisins scandinaves et une trentaine d'années avec presque les autres pays européens. Alors pourquoi le début des années 2010 ? Donc il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette prise de conscience tardive. Donc déjà, la publication des rapports de Barbieux. Donc vous connaissez sans doute Éric de Barbieux, hein, qui est en France un des experts de la violence scolaire, un pédagogue, prof en sciences de l'éducation, qui mène des enquêtes en milieu scolaire, école primaire, collège, lycée, et révèle que... parmi les élèves qui sont victimes de violences scolaires, donc de violences exercées par leurs camarades, 10% d'entre eux seraient victimes de violences vraiment répétées, voire quotidiennes, qu'on pourrait caractériser de harcèlement scolaire. Donc il remet son rapport au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui est Luc Chatel, en lui disant « il y a quand même 10% de nos élèves qui se font violenter » tous les jours, avec vraiment quelque chose qui s'apparente, qui est même du harcèlement, avec des conséquences très très graves pour eux. Donc Luc Chatel décide d'agir et il met en place la première campagne de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, donc en 2012, qui s'intitulait « Agir contre le harcèlement à l'école ». Donc cette campagne de sensibilisation a été diffusée à la télé et principalement sur les réseaux sociaux. À peu près à la même époque, là c'est vraiment quelque chose de tragique qui se produit, on a en février 2013 deux adolescents âgés de 13 ans qui mettent fin à leur jour. Donc ils se suicident par pendaison dans leur chambre pour des raisons qui sont imputables au harcèlement scolaire dont ils étaient victimes. Donc vous vous souvenez sans doute d'eux, les affaires ont été très médiatisées. Donc il s'agit du jeune Mathéo et de la jeune Marion. Donc les parents, forcément très troublés parce qu'il vient de se produire, ont médiatisé l'affaire et ont notamment créé deux associations. Association Les Parents, par les proches de Mathéo, et Association Marion la main tendue, qui est créée par Madame Nora Fraisse, la maman de Marion. Madame Fraisse, il faut savoir qu'elle joue vraiment un rôle important dans la prise en compte du harcèlement scolaire par les pouvoirs publics français. Elle fait pression sur les pouvoirs publics, elle est ultra médiatisée suite au suicide de sa fille, elle n'hésite pas à interpeller les pouvoirs publics et elle arrive à rallier autour d'elle différentes associations de lutte contre les violences scolaires et à faire vraiment une forme de lobbying sur l'État qui fait qu'il y a des décisions qui sont prises en compte, qui devaient sans doute être prises par rapport au rapport de Barbieux et ce que Luc Chatel avait déjà mis en place, mais qui sont vraiment, vraiment accélérées par, on va dire, les prises de parole publiques de Madame Fraisse. Donc elle se rapproche notamment à cette époque de Najat Vallaud-Belkacem, et cette ministre va mettre en place différentes choses, notamment l'instauration de la journée de mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire, qui a donc lieu chaque année en novembre, premier ou deuxième jeudi du mois. Elle va mettre en place un site internet ministériel sur lequel enseignants, étudiants, parents, enfants peuvent télécharger des ressources pour s'informer sur le phénomène. Une ligne d'écoute nationale qu'on peut appeler quand on est victime de harcèlement ou quand on est enseignant et qu'on se demande s'il n'est pas en train de se passer quelque chose dans notre classe et qu'on a envie d'avoir des réponses. Et puis elle mettra aussi en place le dispositif ambassadeur lycéen contre le harcèlement, dont je vous reparlerai à la fin de mon intervention. Donc ça fait différentes choses qui font qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une problématique dans nos écoles françaises et qu'il est important d'agir. À travers le suicide de Marion et de Mathéo, on se rend compte d'une chose. En plus, c'est qu'il y a la question des réseaux sociaux qui vient se greffer à tout cela. On se rend compte que la violence sort de l'école par le biais des réseaux sociaux pour mieux y revenir. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, que harcèlement et cyberharcèlement formaient bien souvent les deux faces d'une même pièce. Donc là, je vous ai parlé du harcèlement scolaire, c'est-à-dire du harcèlement entre adolescents, mais il est aussi important de bien recontextualiser les choses et de se dire que la cyberviolence, le cyberharcèlement et même le harcèlement, c'est loin d'être une problématique adolescente, comme nous le savons tous et comme le montre très régulièrement l'actualité. Le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est une violence qui frappe partout, à tout âge et dans tous les milieux, à l'école, à l'université, entre élèves, entre étudiants, des élèves, des étudiants envers les professeurs et également de certains professeurs envers les étudiants et les élèves. Dans le monde du travail, on parle beaucoup de harcèlement moral et de harcèlement au travail, qui peut également être une forme de cyberharcèlement, puisque maintenant les menaces, les rumeurs, les insultes, elles sont aussi envoyées par les réseaux sociaux. Je présenterai les différentes formes de cyberviolence juste après. On parle de harcèlement de rue, de cyberharcèlement public. Il y a du harcèlement dans la sphère privée. D'ailleurs, je vous renvoie à une étude qui est dédiée aux cyberviolences conjugales, qui est parue en novembre de l'année dernière, qui explique aussi que maintenant les réseaux sociaux, c'est aussi une manière dont parfois les hommes se servent pour violenter les femmes et vice-versa. Je vais vous raconter beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'exemples de violences exercées à l'encontre des femmes, mais il faut aussi dire que la violence et la cyberviolence peut également être exercée des femmes à l'encontre des hommes. Donc là, je vous ai mis différents exemples soit de dispositifs, soit d'affaires qui ont éclaté. On a en ligne plusieurs blogs, c'est des Tumblr qui s'appellent « Paye-t-on ou paye-t-a ». Par exemple, on a Paye ton taf, et là, sur Paye ton taf, les personnes viennent restituer des anecdotes, on va dire, qui pourraient être considérées comme du harcèlement au travail ou du harcèlement moral. On a Paye ton troll, qui avait été créé pour dénoncer ce qu'on appelle le harcèlement et le harcèlement de meute. Donc là, ça renvoie plutôt au discours de haine, les trolls qui se mettent à publier massivement des contenus sexistes ou racistes. On a la cyberviolence conjugale, dont je vous ai parlé, et puis on a eu en février dernier ce scandale de la Ligue du LOL, qui a révélé que des journalistes avaient cyberharcelé leurs collègues, des femmes, des hommes, parce que femmes, parce qu'homosexuels, etc., etc., notamment lorsqu'ils étaient étudiants en école de journalisme, plutôt vers la fin de leurs études. Donc c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en février dernier, parce qu'elle montre plusieurs choses. Déjà que le harcèlement ne s'arrête pas avec l'obtention du baccalauréat, et puis la plupart d'entre vous êtes étudiants et vous êtes... là, aujourd'hui, peut-être tous en master, mais vous avez été aussi en première, deuxième année à la fac et vous avez sans doute peut-être aussi pu constater que les moqueries, les violences, les rumeurs, elles ne s'arrêtent pas à la fin de la terminale. Donc, la Ligue du LOL nous montre que même dans les écoles supérieures de journalisme, il y a des choses comme ça qui se produisent encore et que ce n'est pas parce qu'on est journaliste, plutôt journaliste de gauche avec des idées un peu comme ça... très positif sur la société, qu'on ne peut pas s'adonner à la cyberviolence. Donc voilà, en gros, l'idée de mon intervention, c'est de montrer que finalement l'école n'est qu'un miroir de la société et que, alors, on peut dire beaucoup de choses sur les adolescents et sur les élèves, mais qu'il ne faut pas oublier que bien souvent ils ne font que reproduire ce qu'ils voient à la maison, dans la rue ou dans la société en général, au sein des séries télévisées, au sein de la publicité, etc., etc. Alors, par rapport aux différentes formes de violence, je vais vous dresser une typologie. Vous savez que nous, les chercheurs, on adore faire des typologies. Mais avant de faire la typologie, je vais vous citer 4 extraits d'entretien actuellement. Et ce, depuis 2 ans, je mène des enquêtes sur le terrain, donc des entretiens semi-directifs, comme on dit, auprès de lycéens de l'Académie de Reims et de l'Académie Metz-Nancy. Donc je rencontre des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont au lycée, alors soit en lycée général technologique, soit en lycée professionnel. Et puis au cours de mes entretiens, je discute avec eux de l'usage qu'ils font des réseaux sociaux, mais également de cette problématique de violence, cyberviolence, harcèlement, cyberharcèlement. Et donc je vais vous donner comme ça juste, on va dire, 4 verbatims, et puis on verra après à quel type de violence on peut rattacher ce que ces jeunes hommes et jeunes femmes m'ont confié l'année dernière. Donc la première personne, c'est Océane. Bon, bien sûr, les prénoms ont échangé. Hein, vous savez, si certains d'entre vous sont amenés à faire des entretiens, on a généralement le droit d'enregistrer les enquêtés avec l'autorisation, bien sûr, des parents quand ils sont mineurs et des chefs d'établissement. Mais il est d'usage de rendre le verbatim anonyme et de modifier le prénom des personnes. C'est valable aussi quand on interroge des adultes. Donc Océane, 16 ans, me dit « Au collège, je me faisais insulter tout le temps. J'ai changé de collège en 4e et ça a recommencé. Je me faisais insulter et harceler sexuellement. J'ai eu une réputation et plus personne ne me parlait. En fait, c'était pire que sexuellement, on me touchait. J'ai été voir les CPE, mais ils n'ont rien dit. » Ensuite, une autre jeune fille qui s'appelle Chloé et qui a également 16 ans. Les garçons, ils disent qu'on est des putes, qu'on est des chiennes. Moi, j'ai eu plein de rumeurs sur moi comme quoi je faisais des choses avec les garçons, alors que pas du tout, je faisais rien. Même, il y a des filles qui font des réputations à d'autres filles. C'est pas que les garçons. Donc ça, c'était pour Chloé. Ensuite, le jeune homme que j'ai interrogé, c'est un jeune homme qui s'appelle Sekou et qui a 17 ans. Donc là, il me confiait l'activité de youtubeur qu'il avait. Et en fait, sur YouTube, il publie notamment sa musique, puisqu'il est musicien. Donc, il me dit, j'ai publié un son sur YouTube et je l'ai partagé sur Facebook. C'était un soir, vers 20h. Le lendemain, j'avais cours à 8h. Et donc, ensuite, il va m'expliquer ce qui s'est passé quand il est arrivé dans la cour de récré. Donc, eux, donc là, ils parlent de ses camarades, notamment de sa classe et de ses copains, eux, ça ne leur plaisait pas trop, mon son. Du coup, ils se sont mis à se moquer de moi. Parce que mon son, ce n'est pas du rap, comme ils s'attendaient. Moi, c'est plutôt R&B, un peu lover, quoi. Et eux, ça ne leur plaisait pas du tout. Après, ça a aussi dégénéré sur les réseaux sociaux. J'ai eu des commentaires qui venaient de mon groupe, des gens avec qui je traînais tout le temps. Il y avait de la méchanceté totale et des trucs qui n'avaient rien à voir avec la musique, qui n'étaient pas des critiques constructives, des trucs racistes. On me traitait de sale noire. Et la dernière personne interrogée, c'est Kevin, qui a 16 ans. Kevin, je l'ai réinterrogé aujourd'hui, l'année dernière, je l'avais interrogé quand il était en seconde, et puis donc il s'appelait Kevin, et puis entre-temps, il s'est révélé être une personne transgenre, et donc aujourd'hui, il s'appelle Laura. Et il est également victime de brimades du fait de sa transition. Mais le verbatim que je vais vous lire, c'est quand il était encore Kevin et qu'on abordait à ce moment de l'entretien la question du revenge porn dont je vais vous parler juste après. Ça, c'est en pleine croissance de publier des photos dénudées. C'est surtout envoyé par des jeunes et je pense que c'est arrivé avec la démocratisation de la pornographie. Les garçons qui font ça veulent faire comme les grands, c'est ça leur mentalité. Mais attention, il ne faut pas faire de généralité, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui ne le feront pas. Ou l'inverse, des filles qui ne publieront jamais des photos de garçons. Parce que ça existe aussi l'inverse, des filles qui publient des photos de garçons. Mais ça, on en parle moins. C'est déjà arrivé qu'une fille publie une photo intime qu'un garçon lui avait envoyée, mais on n'en parle pas parce que c'est moins sensationnel. Donc voilà pour 4 verbatims issus de mes enquêtes terrain, qui, en fait, illustre assez bien les différentes formes de violence en ligne qu'on peut, on va dire, identifier entre adolescents, mais finalement, c'est aussi valable entre adultes. Donc, je vais vous les présenter, hein, elles sont notées sur la diapo. Donc la première forme de violence, c'est de la violence, on va dire, relative à ce qu'on appelle l'exclusion sociale. Alors l'exclusion sociale, c'est déjà une violence hors ligne. Hein. Dans la cour de récré, en général, l'élève qui est harcelé et qui fait office de bouc émissaire, il est souvent isolé. Donc il est exclu du groupe de pairs. Il est exclu, il n'a pas d'amis, on ne l'invite pas aux sorties du mercredi après-midi, je ne sais pas, mais il n'est pas invité aux anniversaires, etc. Et cette exclusion sociale, elle se poursuit en ligne, au sens où il est exclu des groupes en ligne. Si par exemple la classe a un groupe sur Snapchat, eh bien cet élève, on va lui interdire l'accès au groupe, ou bien il participait au groupe et puis un jour on décide de l'exclure et donc il se fait sortir du groupe. Donc c'est ce qu'on nomme l'exclusion sociale. L'autre forme de cyberviolence, c'est l'usurpation d'identité. Donc l'usurpation d'identité, on le sait, c'est utiliser l'identité d'une personne sans son consentement, en général à des fins criminelles. On peut, nous on le sait très bien, même en tant qu'adulte, se faire voler notre identité par une personne qui souhaite ouvrir un compte bancaire. On peut aussi, je sais pas moi, se faire voler sa carte grise, son permis de conduire, etc. Et les personnes se font passer pour nous. L'autre forme d'usurpation d'identité, et qui est assez, on va dire, courante chez les adolescents, c'est le fait de créer un faux profil, mais avec les vrais noms d'une personne. Donc on crée un faux profil. En général, le but du jeu, c'est de publier des photos compromettantes et des contenus compromettants pour se moquer de la personne ou pour lui faire une réputation, comme diraient les deux jeunes filles dont je vous ai parlé juste avant. La troisième forme de violence, et c'est la plus importante, hein, elle est très représentative de la cyberviolence entre pairs, c'est la violence verbale. Donc elle se compose d'insultes, de moqueries et de diffusion de rumeurs. Hein. Donc c'est les insultes qui sont envoyées par SMS, publiées sur les réseaux sociaux, les rumeurs qui sont diffusées en ligne. Nous avons aussi une violence sexuelle. Alors, qu'est-ce que la violence sexuelle, là ? C'est vraiment tout ce qui renvoie à cette question du revenge porn. Hein. C'est le fait de diffuser des photos intimes ou des vidéos intimes sans le consentement de la personne. On appelle ça revenge porn, hein, la vengeance par le porno, puisque initialement, les premiers cas qui sont répertoriés, c'est souvent la même histoire qui se répète. Une jeune fille a fait des photos intimes pour son copain, il y a une rupture, il n'est pas content, il diffuse les photos pour se venger. Mais finalement, quand on étudie bien le phénomène, on se rend compte qu'il y a différentes cas de figure qui participent du revenge porn. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu nécessairement rupture et le garçon publie les photos pour montrer à ses copains qu'il a une vie sexuelle et que voilà, c'est un homme, un vrai. Ça peut être aussi des photos qui sont diffusées par la meilleure amie, hein, ça on le sait, j'y reviendrai après, mais que le réseau amical y joue vraiment un rôle important dans la cyberviolence entre adolescents. Je ne sais pas, la meilleure amie ou le meilleur ami est jaloux, ou je ne sais pas, il y a eu rupture, il y a différents bagarres, et il sait qu'il y a des photos intimes qui ont été faites, il réussit à les intercepter et à les publier. Ça peut être aussi des diffusions qui émanent, on va dire, de pirates. Donc, il y a plusieurs cas de figure. On pirate votre ordinateur ou votre portable, on récupère vos photos, ou quelqu'un récupère vos photos et vous fait chanter. Donc, soit on vous demande de l'argent, hein, on appelle ça la sextorsion, on vous demande de l'argent. Si vous ne donnez pas l'argent, on diffuse les photos. Mais ce qui est la grande mode actuellement, c'est de demander des faveurs sexuelles. Et ça, c'est ce qui est arrivé à des jeunes filles. En Corse. En fait, il y a un homme qui s'est fait passer pour un ado et qui a réussi à faire en sorte que des jeunes filles de 13 et 14 ans diffusent des photos intimes. Lui diffuse des photos intimes et en fait ensuite il les a fait chanter. Il leur a dit si vous ne vous adonnez pas à des attouchements sur vous-même devant votre webcam, je vais tout dire à vos parents, je vais publier les photos au sein de votre collège. Les jeunes filles ont eu très peur et heureusement l'une d'entre elles en a parlé à ses parents. Une plainte a été déposée, et puis cette personne a été arrêtée, condamnée et emprisonnée. L'autre cas, alors là, c'est du revenge porn massif, ça s'appelle le baiting, hein, donc B-A-I-T-I-N-G. Donc là, en gros, un jour, un profil se crée, en général sur Snapchat, c'est un corbeau qui contacte des garçons et qui demande aux garçons de diffuser les photos de leurs copines, de leurs ex ou de filles de leur entourage, avec bien évidemment leur identité. Hein. Le but, c'est de nommer pour ensuite aller insulter les filles. Donc les photos circulent avec le nom, prénom, parfois le téléphone de la jeune fille. Et ensuite, le but du jeu, c'est de leur envoyer des insultes, en général, pour leur indiquer qu'elles sont des filles faciles ou leur demander des faveurs sexuelles. Je vous ai mis là à chaque fois des copies d'écran de titres de presse. Affaire de nude à Strasbourg, des selfies intimes d'adolescentes exhibées sur les réseaux sociaux. Là, on avait une cinquantaine de jeunes lycéennes qui, un lundi matin, sont arrivées dans leur lycée et puis se sont rendues compte que leurs selfies intimes circulaient depuis le week-end sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas arrivé qu'à Strasbourg, c'est également arrivé dans notre académie il y a quelque temps. Sur l'idée, c'était souvent, c'est le même principe. Quelqu'un crée un compte et demande à ce que des photos soient envoyées. Il y a une autre variante aussi qu'on m'a racontée, c'est une fille qui plaît, et mais c'est jamais très positif. C'est pas « je suis tombée amoureuse de cette merveilleuse jeune fille », c'est une photo de cette fille qui est comme ça envoyée sur les réseaux sociaux en disant « celle-là, je la trouve vraiment, j'aimerais bien aller plus loin avec elle, est-ce que vous pouvez me donner son numéro et ses coordonnées ?» Donc voilà un peu tout ce qui touche à cette violence que j'ai caractérisée de sexuelle, enfin elle n'est pas sexuellement directe, mais en tout cas les conséquences quand vous avez vos photos intimes ou vos vidéos intimes qui se retrouvent sur Internet avec des centaines de personnes qui les voient, le résultat est le même. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le revenge porn touche principalement les femmes, mais il arrive aussi que des jeunes hommes ou des hommes se retrouvent également tout nus sur le web parce que leurs photos intimes ont été diffusées. Donc ça, c'est pour la violence sexuelle. La dernière forme de violence, c'est une violence physique. Donc même chose, en fait, c'est une violence qui est physique en face à face, mais qui est médiée et médiatisée par les outils numériques. Donc il y a une dizaine d'années, on avait beaucoup parlé du happy slapping. Donc l'idée, c'était de filmer des agressions et de les faire tourner sur les réseaux sociaux. Le psychanalyste Serge Tisseron, qui avait beaucoup étudié le phénomène à l'époque, avait même dit, en fait, le happy slapping, ce n'est pas filmer une agression, c'est provoquer une agression en vue de la filmer et de la diffuser sur les réseaux sociaux. On a une forme renouvelée qui est apparue il y a quelque temps, c'était du côté de Metz, c'est le Maraf Challenge, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était un peu du même acabit, c'était d'agresser un garçon pour gagner 10 euros, agresser une fille pour gagner 30 euros, et comme on est sur le principe du challenge, il faut prouver que vous avez relevé le défi, donc en général le défi est filmé. Et puis à ceci s'ajoutent tous les challenges impliquant le corps, mais cette fois c'est une violence qu'on retourne contre soi-même, c'est tous ces jeux dangereux, ces défis dangereux, il y en a plusieurs, je donne souvent le même exemple. C'est le défi de la glace et du sel où vous devez en fait vous verser une dose de sel sur l'avant-bras, vous posez un glaçon et le sel associé à la glace, ça brûle. Donc vous tenez le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'une crevasse se forme. Et donc vous filmez en direct et comme ça vous pouvez prouver à votre réseau que vous avez relevé le défi. On a eu aussi le défi du feu. L'idée c'était de se déverser un liquide inflammable sur le jean, craquer une allumette, comme ça vous prenez feu. Et il faut sauter le plus rapidement possible dans la baignoire ou sous la douche. Ça ne reste que des épiphénomènes, c'est-à-dire que ils sont répertoriés par la presse. Il y a de temps en temps des cas comme ça qui éclatent. C'est vraiment, on n'est même pas 1% d'ados qui s'adonnent à ceci. C'est pas représentatif, mais c'est important comme on est là pour faire une typologie des cyberviolences, de dire qu'il y a aussi une violence physique contre les autres ou contre soi-même, qui peut devenir cyberviolence au moment où elle est captée par vidéo ou en photo et ensuite diffusée en ligne. Concernant la violence physique, il y a deux choses à dire. C'est que, même chose, si on se remet sur la première diapo, bisounours versus apocalypse, on entend comme ça, depuis que le happy slapping a fait son apparition en 2004, que les jeunes, ils deviennent complètement fous avec le téléphone portable, puis avec le smartphone. Maintenant, ils s'agressent ou ils se font du mal et ils se filment. C'est faux au sens où les jeunes n'ont pas attendu à l'époque Dailymotion et aujourd'hui Snapchat pour s'agresser les uns les autres et se faire mal. Les challenges dont je vous ai parlé, que ce soit les challenges d'agression ou les challenges d'agression contre soi-même, il faut simplement les voir comme une forme renouvelée de jeux dangereux auxquels les enfants et les adolescents s'adonnent dans les cours de récréation au moins depuis les années 80-90. Les jeux d'agression, on en connaît dans la cour de récré, il y en a plusieurs qu'on peut citer en exemple. Le jeu du taureau ou une une personne s'amuse à foncer tête baissée sur quelqu'un pour le projeter au sol. On a le jeu du petit pont massacreur où voilà, un groupe de personnes se lance une balle et quand quelqu'un la fait passer sous ses jambes, donc en petit pont, tout le monde lui saute dessus pour le frapper. Le jeu de la couleur, on désigne une couleur le matin, par exemple, je ne sais pas, elle est bleue, et toutes les personnes qui portent du bleu se font frapper tout au long de la journée. Donc vous voyez, ces jeux d'agression physique, il ne faut pas les voir comme provoqués par l'arrivée du web et des réseaux sociaux. C'est juste une forme renouvelée et médiatisée. Les agressions contre soi-même dont j'ai parlé, que ce soit se brûler, ça peut être se scarifier, ça peut être aussi voilà, réaliser des... Je sais pas moi, s'attacher, faire du skate et s'attacher à un bus tout en se filmant, ça c'est tout simplement des défis. Des défis où on frôle la mort, il y en a aussi toute une série hein, qui circule dans les cours de récré. On peut citer tous ces jeux... où il s'agit de couper sa respiration, comme le jeu du foulard, le rêve indien, le jeu de la tomate, hein, où l'idée c'est voilà, d'atteindre un état un peu de transe parce qu'on arrête de respirer. C'est la même chose, c'est une mise en danger de soi. Elle n'est pas provoquée par les réseaux sociaux, cette mise en danger de soi-même, elle est simplement provoquée par un truc qui s'appelle l'adolescence. Et à l'adolescence, ben, on aime bien aller toujours plus loin, on aime prendre des risques, on aime aussi se prouver peut-être qu'on peut frôler la mort, qu'on est le plus fort, etc. Et ce n'est certainement pas les réseaux sociaux qui engendrent cette violence, ils ne font vraiment que l'amplifier, je pense. Autre chose, et là c'est pour, ben voilà, vous reconnaîtrez à travers les 4 verbatims que je vous ai lus tout à l'heure, que la violence, et notamment la violence verbale et sexuelle, est quand même souvent, et ça les nombreuses études qui se sont penchées sur la question le montrent bien, ça reste avant tout une violence sexiste et homophobe qui est liée aux stéréotypes de genre. Hein. Donc les stéréotypes de genre, ce sont les stéréotypes qui dictent aux filles comment elles doivent se comporter pour être considérées comme des filles bien. Sinon, elles risquent de se faire caractériser de filles faciles. Et ce sont les stéréotypes qui indiquent aux garçons comment ils doivent se comporter pour être des hommes, des vrais. Au risque de se faire taxer d'homosexuel, en fait. Hein. Je ne vais pas, voilà, je vais pas citer les insultes. Vous voyez très bien quelles sont les insultes qui peuvent être proférées à un garçon dont on doute de sa virilité. Et puis, bien évidemment, toutes les insultes liées à la culture, hein, insultes racistes, antisémites, et tout ce qui a trait à l'apparence physique, et notamment la grossophobie. Mais pas que, on sait, tout à l'heure, je vous ai parlé du jeune Matteo qui a mis fin à ses jours. Principalement, les insultes tournaient beaucoup autour de sa couleur de cheveux. Ce jeune homme était roux. D'ailleurs, il était amateur de rap et il composait. Il avait aussi diffusé des chansons de rap sur les réseaux sociaux, et quelques jours avant sa mort, il a publié sa dernière chanson, et dans le refrain, il est dit « Juste parce que je suis roux, je suis pas comme les autres, juste parce que je suis roux, il m'insulte, juste parce que je suis roux, je suis le souffre-douleur ». Et donc ce garçon, il s'est fait, voilà, bon, il nous a quittés à l'âge de 13 ans, il était en 5e, depuis l'école maternelle, il se faisait insulter parce qu'il était roux. La grossophobie, c'est la même chose, on sait que les élèves en surpoids ou ayant des problèmes d'obésité risquent à un moment de leur scolarité de se faire insulter en raison de cette caractéristique. C'est la même chose pour les personnes qui sont trop maigres, les personnes qui ont de l'acné à l'adolescence, etc., etc. Donc ça, ce sont tous les stéréotypes liés à l'apparence physique. Si maintenant on s'intéresse principalement au cyberharcèlement à l'école, pour faire le lien entre harcèlement, cyberharcèlement, qu'est-ce qu'on sait ? Donc, on sait déjà que le harcèlement, si on parle maintenant du harcèlement en face à face, juste pour vous préciser une définition, mais vous la connaissez peut-être, on dit qu'un élève est victime de harcèlement scolaire à partir du moment où il se fait violenter de manière régulière, à partir du moment où également il est dans une position de faiblesse, c'est-à-dire qu'il se fait harceler par un groupe de personnes et lui il est tout seul contre tous, ou bien quelqu'un de plus faible qui se fait harceler par quelqu'un de plus fort et qu'il y a intention de nuire. Donc pour être harcelante, les violences doivent être répétées, elles doivent être réellement provoquées dans le but de nuire à la personne, et il doit y avoir une... un déséquilibre des forces. C'est-à-dire que si deux élèves s'insultent régulièrement, se frappent, s'insultent tous les jours, mais en fait ils le font, ils se répondent l'un l'autre, il n'y a pas harcèlement. Il y a violence, mais il n'y a pas harcèlement. Pour qu'il y ait harcèlement, la personne doit vraiment se sentir en position de faiblesse. Donc ça, c'est une chose. On verra après comment on peut définir cette fois le cyberharcèlement. Concernant donc cette cyberviolence, elle prolonge parfois la violence hors ligne, c'est-à-dire que l'élève il est déjà victime de harcèlement scolaire et tout simplement bah, il se fait également insulter ou menacer sur les réseaux sociaux. C'est donc un simple prolongement en ligne d'une violence qui existe déjà hors ligne. Autre cas de figure là, qui est propre aux réseaux sociaux, c'est que la cyberviolence, elle peut conduire à la violence hors ligne. C'est-à-dire qu'il y a une affaire qui éclate, par exemple, pendant le week-end. Des jeunes gens sont en soirée. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une photo qui se met à circuler. Une photo intime ou un photomontage, des insultes, des rumeurs. Et la personne revient à l'école le lundi matin. Et là, c'est parti, tout le monde se moque d'elle à cause de quelque chose qui s'est passé en dehors de l'école et en dehors des temps scolaires. Donc, c'est la cyberviolence qui génère la violence. On le sait. Alors là, je vous ai cité les références principales. Il y en a d'autres. Je vous montrerai où vous pouvez accéder aux références tout à l'heure. On sait donc par les chercheurs qui se sont intéressés au cyberharcèlement à l'école que le réseau amical et les camarades de classe jouent un rôle important dans cette histoire de cyberharcèlement. C'est rare quand on étudie des cas de cyberharcèlement qu'il n'y ait pas les camarades, voire les amis, voire l'ex-petite amie qui y est derrière tout ça. C'est donc rare que des jeunes se fassent cyberharceler par des parfaits inconnus. Donc il y a un lien entre les amis et le cyberharcèlement, et bien évidemment un lien entre la question du climat scolaire et la violence, cyberviolence, harcèlement, cyberharcèlement. On sait qu'un climat scolaire malsain va généralement favoriser la violence, bien plus qu'un climat scolaire serein. Donc juste pour rappel, le climat scolaire, il se mesure de différentes manières. La qualité des rapports entre élèves, la qualité des rapports entre les enseignants et les élèves, les rapports entre les enseignants eux-mêmes, les rapports entre les enseignants et les parents, mais également la qualité, on va dire, des lieux, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un collège confortable, avec de beaux bâtiments, un équipement de qualité, etc. Donc plus le climat est favorable, plus la violence diminue. On sait concernant la cyberviolence à l'école et également à l'université, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrête pas avec l'obtention du baccalauréat, que les enseignants ne sont pas épargnés. Il y a des études qui prouvent, et notamment Catherine Blaya, qui ont donc des études qui ont montré que les enseignants n'étaient pas épargnés. Ils peuvent aussi se retrouver en photo sur les réseaux sociaux. Ça arrive pendant les cours, l'enseignant se fait filmer, insulter, etc. Et comme pour l'enseignant, l'école ou l'université, c'est un lieu de travail, il y a aussi du cyberharcèlement entre enseignants, entre collègues. Ce qu'on retrouve dans le monde du travail, dans l'entreprise privée, on le retrouve également dans le secteur public. Donc une violence qui se poursuit à l'université, je l'ai dit, et on le sait, il y a régulièrement au sein des composantes, que ce soit les facultés ou les IUT, des histoires de cyberharcèlement qui éclatent au sein de promotions de master, de licence, et on se dit c'est pas possible, ça continue encore, et oui, ça continue encore et encore. Donc voilà, la violence ne s'arrête pas à l'université, elle ne s'arrête pas, elle se poursuit à l'université et parfois dans le monde du travail. Concernant maintenant le profil, bon, c'est toujours délicat de parler de profil, mais qui sont les victimes, qui sont les agresseurs? On observe également différents cas de figure. En ligne, les choses sont vraiment beaucoup plus complexes. Vous avez des personnes qui vont cyber-agresser des gens, alors qu'en face à face, ce sont des jeunes qui n'oseraient jamais s'adonner à la moindre violence. C'est pour ça que c'est compliqué à détecter, et que parfois les parents et les enseignants tombent des nues quand ils apprennent qu'un tel ou une telle insulte sur Facebook ou sur Snapchat ses camarades, alors que c'est des jeunes filles ou des jeunes hommes qu'on a en cours qui ne feraient jamais de mal à une mouche, comme on dit. Même chose pour les victimes. Vous pouvez très bien être victime en ligne, c'est-à-dire on vous insulte, on vous menace, et hop, on revient à l'école ou à l'université, il ne se passe rien. Donc ça, c'est vraiment parfois très, très angoissant pour les victimes. Elles savent qu'on les insulte sur les réseaux sociaux, et en face à face, il ne se passe rien. Donc elles ne savent pas d'où ça vient. Bon, dans la majeure partie des cas, en général, quand les élèves sont victimes de harcèlement, ils sont quand même victimes de cyberharcèlement et vice-versa. Mais voilà, ça peut arriver qu'on soit victime et pas cyber-victime et vice-versa. Concernant les profils, là, c'est toute la question qui rend vraiment les choses plus complexes. Eh bien, qui va être le cyberagresseur ? Ben, ça peut être nous tous, en fait. C'est-à-dire tous ceux qui, par un simple like, retweetent, partagent, participent aux méfaits et apportent leur pierre à l'édifice. C'est d'ailleurs pour ça que la loi du 3 août 2018 caractérise désormais le harcèlement de meute, le cyberharcèlement de meute, et stipule que le simple fait d'avoir liké un contenu qui fait l'objet justement de nombreux likes et retweets parce que c'est un contenu raciste, sexiste, homophobe, ça fait partie du cyberharcèlement. Donc vous pouvez uniquement liker une fois et vous retrouver accusé de harcèlement avec cette loi du 3 août 2018. C'est d'ailleurs pour ça que l'Éducation nationale, dans un de ses premiers clips contre... donc vous savez, il y a la journée mobilisation nationale tous les jeudis, premier jeudi de novembre. Lors de cette journée, on a un clip qui est diffusé en ligne et à la télé. Rappelez-vous, c'était en 2015 ou 2016. Le slogan, c'était « Liker, c'est déjà harceler ». Et on voyait dans ce clip une jeune fille qui allait se coucher. Donc le soir, elle était dans son lit. Elle consultait son profil sur un réseau social. Elle prend connaissance d'une incitation au suicide. « Tu ne mérites pas de vivre ». Et elle voit tous les likes en fait, qui apparaissent les uns à la suite des autres. Donc en gros, à chaque fois que c'est liké, c'est répété. C'est pour ça que le slogan « liker, c'est déjà harceler » est vraiment très pertinent. J'y reviendrai après. Dernier aspect, vous voyez les jeunes filles que j'ai interviewées tout à l'heure, elles l'ont dit. Enfin, quand je vous ai lu les verbatim, il y a des réputations. J'avais une réputation. Eh bien, c'est la même chose quand on analyse la cyberviolence. On se rend compte que la question de la réputation, elle n'est jamais très loin. Donc, bien évidemment, quand on diffuse des photos intimes, quand on insulte les gens, quand on lance des rumeurs, l'idée, c'est de nuire à l'image et à la réputation de la personne. En général, quand les garçons publient les selfies intimes des jeunes filles, l'idée, c'est de montrer que ce sont des filles faciles. Donc, de nuire à leur réputation. Mais la réputation et la recherche de réputation et de popularité, elle peut être aussi à l'origine de la cyberviolence. Surtout dans le monde adolescent. On sait très bien qu'un adolescent, il est en pleine construction identitaire, que pour se construire, il a besoin du regard et de l'approbation de ses pairs, P-A-I-R-S, et qu'en se moquant des autres, c'est quand même un bon moyen d'amuser la galerie. On fait rire les gens, donc on est populaire. On relève des défis les plus dangereux les uns que les autres, on gagne en popularité parce qu'on est considéré comme quelqu'un qui sait prendre des risques. Et donc, quand on gratte bien, on se rend compte que l'intention de nuire, elle n'est pas toujours en première position. L'idée, c'est se moquer. Et là, vous avez donc l'experte des pratiques numériques des adolescents qui s'appelle Dana Boyd. Je le mets en minuscule parce que vous savez peut-être que Dana Boyd souhaite qu'on écrive son prénom et son nom sans lettre majuscule. Elle le dit très bien, que les rumeurs, les moqueries, tout ce qui est souvent envoyé sur les réseaux sociaux, c'est quand même pour gagner de l'audience, avoir des likes, avoir plein d'amis, etc. Et que, en gros, le cyberharcèlement, parfois, ça n'est qu'un dommage collatéral. C'est pour ça que c'est très difficile de caractériser le cyberharcèlement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a harcèlement quand les violences sont petit 1 répétées, petit 2 vraiment exercées avec l'intention formelle de nuire à la personne, et petit 3 dans un contexte où il y a déséquilibre des forces. On pourrait se dire, c'est simple, on prend la même définition pour le cyberharcèlement. On dit qu'il y a cyberharcèlement quand les cyberviolences sont répétées avec intention de nuire et qu'il y a déséquilibre des forces. C'est très facile sur Internet, à partir du moment où vous êtes insulté et qu'il y a 1000 personnes qui prennent connaissance du contenu, le déséquilibre des forces, il est tout fait. On vous insulte de manière anonyme, vous ne savez pas qui vous insulte, il y a aussi déséquilibre des forces. Mais ce n'est pas si simple que cela, parce qu'en contexte numérique, la répétition, elle peut venir de différentes choses, de la fragmentation des actions. Et c'est exactement ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire liker, c'est déjà harceler. On prend le cas du revenge porn. Une personne, un garçon, ou on peut prendre l'inverse pour pas toujours appuyer sur les garçons, on va dire un jeune homme publie une photo intime, une jeune femme publie une photo intime de son copain, pour lui nuire, vraiment dans le but de lui dire « Tiens, je vais te faire bien mal, tu m'as quitté, je me venge. » Elle le fait une fois. Et elle ne le fait plus jamais. Ce n'est pas répété, vu que c'est ponctuel. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a cyberharcèlement, il y a juste cyberviolence. Mais cette photo, elle est likée 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Elle tourne. Les gens la commentent, font des copies d'écran, la republient, etc. Et bien là, il y a bien répétition des actions. Donc, le cyberharcèlement, il est provoqué par le fonctionnement même du web et des réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour ça que la loi du 3 août 2018, elle protège les victimes en consacrant la lutte contre le cyberharcèlement de groupe et ce qu'on appelle les raids numériques, le harcèlement de groupe, en disant « mais liker, c'est déjà harcelé ». Donc quand bien même la personne qui a diffusé la photo une seule fois n'avait pas l'intention de répéter ses actions, le fait que vous ayez tous liké, commenté, partagé, retweeté, il y a un cyberharcèlement de meute. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça vient de la pérennité des traces numériques. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit insister. Et quand on efface, que ce soit des élèves ou des étudiants, il faut insister sur cette idée de pérennité des traces numériques et d'identité numérique. Vous savez qu'en général, le web n'oublie jamais rien. Quand bien même les contenus sont effacés, on ne sait pas s'ils sont vraiment effacés. Pour peu qu'il y ait eu des copies d'écran, les choses peuvent toujours ressurgir à tout moment. Et donc, on a plusieurs cas de figure. Donc ça, c'est pareil. C'est des grands cas qui sont devenus des cas d'école que je cite toujours quand j'explique ceci. L'affaire Lormanodou, l'affaire Ligue du LOL et l'affaire Ménel. Donc, Lormanodou, l'histoire remonte à 2007. Donc, c'était il y a très, très longtemps. En 2007, elle était encore sportive, elle était encore nageuse, nageuse professionnelle, etc. Plutôt bien partie dans sa carrière. Et son ex-petit copain diffuse une série de selfies très intimes qu'elle lui avait envoyées quelque temps auparavant. Donc, en 2007, ça a fait le buzz, comme on dit. Les photos ont circulé massivement. Puis, on n'en entend plus parler. Elles sont, en fait, elles ressurgissent sur le web. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques... Enfin, c'était l'année dernière, il y a un an ou deux, parce que le chanteur Booba, dans une de ses chansons, parle des selfies. Il dit, je cite, « Tu vaux rien comme un selfie de la chatte à Lormanodou ». Le fait que le grand Booba ait dit ça et qu'il soit écouté par, a priori par des milliers de personnes, il y a des gens qui se disent... deux choses. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose, ça, les selfies de Lormanodou. Ou, tiens, c'est quoi ces histoires de selfies de Lormanodou? Que font les gens? Ils tapent sur Google, selfie de la à Lormanodou, et grâce à la magie des algorithmes, hop, les photos qui étaient parties dans ce qu'on appelle le web profond, très très loin dans les pages qu'on ne va jamais consulter, vu qu'on a été des milliers de personnes à refaire cette requête sur Google, les photos, elles apparaissent dans les premiers résultats. Et donc Lormanodou se fait à nouveau prendre à partie sur les réseaux sociaux à cause de ses selfies 10 ans après. Et donc à nouveau, elle est comme ça, insultée ou regardée de travers à cause de contenus publiés 10 ans auparavant. Donc là, c'est l'idée que la répétition, elle vient de la pérennité des traces numériques. On ne peut pas, en 2017, accuser son ex-petite amie de l'époque de l'avoir à nouveau cyberviolentée, puisque lui, il avait publié les photos en 2007. Mais le fait qu'elles étaient stockées quelque part, puisque Lormanodou avait réussi à les faire disparaître du site source, mais vous vous doutez bien que des photos intimes d'une personne connue, ça avait à l'époque fait le tour du web et qu'il y avait de nombreuses copies d'écran. Donc les photos ressurgissent et la personne se fait à nouveau attaquer sur sa réputation des années plus tard. Pour la Ligue du LOL, c'est le cas inverse. Donc là, c'est l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, le scandale qui révèle en février dernier que des journalistes avaient insulté, s'étaient moqués, avaient organisé des canulars, avaient été très sexistes, des propos parfois très homophobes envers des camarades de promo. Bon. Ils avaient un peu démenti au début en disant oui, oh, je sais, on ne sait plus trop, c'était pour rire, etc. Sauf qu'une des victimes avait gardé à l'époque des copies d'écran, donc des copies d'écran qui datent de 2009. Donc eux ont dit non, il n'y a plus rien. Ils s'étaient bien empressés d'aller nettoyer leur compte. Sauf que la personne, elle a fait si, c'est là. Difficile de mentir. Donc là, c'est pas la réputation des victimes qui est à nouveau mise à mal, mais c'est la réputation, on va dire, des agresseurs. Donc ça aussi, c'est important. Quand on fait des modules éducation médias sur l'identité numérique avec des élèves, leur parler de la pérennité des traces numériques, il faut leur montrer que c'est valable pour les victimes, mais que c'est également valable pour les agresseurs. Et que s'est-il passé pour les journalistes de cette Ligue du LOL? Ils ont été licenciés, donc ça veut dire qu'ils ont perdu leur emploi et que cette cyberviolence, elle a eu un impact direct sur leur carrière professionnelle. des années plus tard. Et le dernier exemple, c'est l'affaire Ménel. Ménel n'a rien à voir avec le cyberharcèlement, mais son affaire et son histoire illustrent parfaitement cette pérennité des traces numériques. Donc vous vous souvenez peut-être d'elle, c'était une jeune fille qui participait à The Voice en 2018, donc c'était il y a 2 ans, qui était plutôt bien partie dans le télécrochet, hein, plutôt partie pour remporter l'émission. Jeune femme d'origine syrienne, voilée, a priori, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc il y a des gens qui sont allés farfouiller dans son compte Twitter et qui ont ressorti des tweets qu'elle avait publiés en juillet 2016, au moment des attentats de Nice. Les tweets sortis du contexte laissaient entendre que cette jeune fille était pro-Daesh et qu'elle soutenait les terroristes, etc. Ça a fait un buzz terrible en l'espace de quelques jours, à tel point que cette jeune fille a dû quitter l'émission. Et donc ça illustre encore une fois le fait que ces traces numériques, elles ont eu un impact direct sur la carrière de quelqu'un, puisque une jeune fille qui se présente à The Voice, en général, a pour objectif de faire carrière dans la chanson ou dans la musique. Donc c'est un peu l'idée que cette cyberviolence, elle participe complètement de notre identité numérique et que, ben voilà, l'idée c'est de, on va y revenir, hein, de développer l'esprit critique des élèves pour leur apprendre que liker c'est déjà harceler, leur apprendre que les contenus ne sont jamais vraiment effacés du web et que tout peut toujours ressurgir à tout moment. Et donc l'idée c'est de réfléchir avant de relayer un contenu, une image, etc. Donc là, j'ai essayé de synthétiser tout ça sur une diapo. Hein. Donc on sait au niveau de la prévention qu'il existe aujourd'hui en France de très nombreux acteurs. Hein. Vous avez les associations, j'en ai cité une tout à l'heure, c'est Marion Labintendue qui fait un travail sur le terrain formidable. Vous avez les ambassadeurs lycéens, je vais en reparler tout à l'heure. Vous avez la DAN qui est aussi partenaire de l'éducation nationale contre la lutte contre le cyberharcèlement. Vous avez la police et la gendarmerie qui interviennent également. Les gendarmes et les policiers font également des missions de prévention au sein des établissements scolaires. Prévention des conduites à risque, donc l'alcool, la drogue, etc. Mais de plus en plus également, ils interviennent sur la problématique de la cyberviolence. Maintenant, en termes d'éducation A, puisque c'est la thématique du séminaire. Donc là, au centre, il convient pas au centre, mais en haut, en fait, l'idée principale, c'est que tout en haut se trouve l'éducation aux médias et à l'information. C'est vraiment le chapeau des éducations A, on va dire, l'éducation aux médias et à l'information. Quand on dit éducation aux médias et à l'information, on pense en général à l'éducation aux médias de masse et à l'information journalistique, et avec toutes ces problématiques de fake news, désinformation, théorie du complot. Et donc il est vrai que l'éducation aux médias et à l'information a pour objectif de lutter contre les fake news et la désinformation, la théorie du complot. Mais si on lit les matrices EMI, si on regarde un peu, voilà, on lit les référentiels, les matrices, etc., on se rend compte que l'éducation aux médias et à l'information, elle a aussi pour but d'éduquer au fonctionnement du web et des réseaux sociaux, d'éduquer à la gestion de l'identité numérique, à cette idée d'intelligence et de pérennité des traces, et que donc l'EMI est complètement pertinente pour aborder ces questions de cyberharcèlement et de cyberviolence. Bien évidemment, l'éducation à l'esprit critique, elle est essentielle, elle est également sous-tendue par l'EMI, mais l'idée là principale, alors développer l'esprit critique des élèves pour leur apprendre à réfléchir avant d'agir, de liker ou de relayer un contenu, de comprendre les phénomènes de rumeurs. L'idée, c'est de se dire, tiens, il y a des rumeurs, il y a des informations qui circulent sur tel garçon ou telle fille du lycée. C'est peut-être une rumeur qui a peut-être pour but de lui nuire et de le harceler ou de la harceler. Je ne vais peut-être pas relayer l'information ou liker, mais cet esprit critique, on le sait, il est là aussi pour réfléchir au contenu auquel on accède sur les réseaux sociaux. Donc là, je fais le lien avec aussi les fake news. Hein. Liker ou relayer un contenu qui caractérise un camarade de classe, ou liker et relayer un contenu en lien avec une actualité, etc. etc. Donc voilà pour l'éducation à l'esprit critique, toujours relié à l'éducation aux médias et à l'information, l'éducation à la sexualité. Si vous lisez les matrices relatives à l'éducation à la sexualité, cette éducation à la sexualité prévoit, bien évidemment, d'éduquer à la sexualité, de parler de la protection, des moyens de contraception, des MST, etc. Mais éduquer à la sexualité aussi, c'est promouvoir la culture de l'égalité, c'est aborder la question des violences sexuelles, de la pornographie, du sexisme, de l'homophobie. dans le cadre d'une séance d'éducation aux médias et à l'information, on peut très bien imaginer d'analyser les modèles et les rôles sociaux qui sont véhiculés par les médias, le cinéma, la télévision, la publicité, etc. On a dit tout à l'heure que la cyberviolence était souvent une violence de genre, une violence sexiste, homophobe. Eh bien, déconstruire les stéréotypes véhiculés par la pub, les médias, la pornographie, c'est aussi une façon indirecte de lutter contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. Autre dispositif éducatif, hein, l'EMC, l'enseignement moral et civique, qui, entre autres, vise à apprendre le respect de soi-même et le respect des autres dans leur diversité, qu'elle soit sexuelle ou culturelle, puisque la cyberviolence, elle est aussi une cyberviolence qui peut être raciste ou antisémite. Donc là, c'est vraiment pour l'aspect média et esprit critique. Mais pour conclure, enfin, j'ai presque terminé, à mon sens, l'éducation aux médias et à l'esprit critique n'est pas suffisante pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. En ce qui me concerne, je pense qu'il est plus que nécessaire d'éduquer les élèves à l'empathie et de les aider à développer leurs compétences émotionnelles. Alors pourquoi l'empathie et les émotions ? Eh bien, parce qu'on le sait, on sait que les émotions jouent un rôle prépondérant dans les situations de harcèlement scolaire. Chaque partie prenante du phénomène est traversée par un état émotionnel particulier. Le harcèlement à l'école, c'est souvent un phénomène de groupe. Vous avez le leader qui s'en prend à une victime à l'aide de ses suiveurs, hein, donc du groupe qu'il a réussi à fédérer autour de lui, sous les yeux, sous le regard des témoins qui sont souvent des témoins passifs. Eh bien, tous ces jeunes gens sont traversés par des émotions. On sait, grâce aux travaux de pédopsychiatrie ou de psychologie, que parfois, vraiment, les leaders, les agresseurs leaders, sont des élèves qui peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions, des élèves qui manquent d'empathie, c'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas à se mettre à la place de l'autre. Les élèves victimes sont aussi parfois des jeunes gens qui n'arrivent pas à verbaliser leurs émotions, qui peuvent souffrir de ce qu'on appelle l'alexithymie. Donc ça, c'est justement la difficulté à faire le lien entre un état physique et l'émotion à laquelle elle renvoie. Donc c'est parfois des jeunes gens qui n'arrivent pas à dire « Stop, là, tu es en train de me faire mal, tu me fais souffrir. » L'émotion est difficile à gérer, du coup, il reste silencieux et l'agresseur, ça lui donne envie de surenchérir. Les suiveurs, ils sont traversés par la peur. Quelle est la peur ? C'est la peur d'être exclu du groupe de pairs. À l'adolescence, appartenir à un groupe, c'est en général essentiel puisque c'est le groupe de pairs qui est là pour nous aider à construire notre identité et à s'émanciper progressivement de nos parents. Se faire exclure du groupe de pairs à l'adolescence, c'est compliqué. Il n'est pas rare que la plupart des ados s'adonnent à du harcèlement scolaire pour faire partie du groupe. Ça fédère, en fait. Et ça, je vous renvoie aux théories du bouc émissaire qui explique très bien le fait de prendre une personne à partie, d'en faire un bouc émissaire, ça permet aux autres de renforcer les liens entre eux. Et les témoins passifs, tous ceux qui voient mais ne disent rien, sont aussi traversés par la peur des représailles ou la peur d'être à leur tour le bouc émissaire. Donc voilà, tous ces jeunes gens sont traversés par des états émotionnels. C'est pour ça que l'éducation à l'empathie et au langage des émotions est essentielle. Donc je vais conclure en vous donnant des exemples, tout simplement, que vous pouvez noter. Donc, développer l'empathie par le jeu. Vous avez un sociologue qui s'appelle Omar Zana, qui est un des spécialistes en France de l'éducation à l'empathie, qui écrit beaucoup sur l'empathie par le jeu. Il montre qu'on peut sortir de la violence grâce à différents jeux. Le dispositif ludique qui permet aux élèves, finalement, de jouer ensemble, c'est-à-dire d'éprouver ensemble les mêmes émotions. J'en ai mis quelques-uns. Les Trois Mousquetaires ou le jeu des figures. Le jeu des Trois Mousquetaires, ça se joue à quatre. Vous avez trois personnes qui doivent tenir le plus longtemps dans une position très inconfortable. Par exemple, ils ont les bras tendus parallèles au sol ou tenir sur une jambe. Et la quatrième personne joue le rôle de joker. Et en fait, elle doit venir remplacer le camarade quand il est sur le point de craquer. Et pour savoir que le camarade est sur le point de craquer, le joker doit être attentif à son visage, puisqu'on sait, le visage, il est le reflet de nos émotions. Donc la personne, je ne sais pas, commence à souffler, devient rouge, dit « j'en peux plus, j'ai du mal », et là, le joker, elle le remplace, etc., etc. Vous avez des jeux de cartes, des jeux de plateau. Hein, le jeu Feelings, qui est développé, entre autres, par Nicole Kathleen, elle n'est pas la seule à avoir créé ce jeu, c'était une équipe d'une dizaine de personnes. Feeling, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu qui fonctionne avec des cartes situation-émotion. On prend une carte situation, par exemple, inclusion des élèves handicapés en classe ordinaire à la rentrée. Et les camarades doivent deviner quelle est l'émotion de leur binôme. Donc pour ceci, ils tirent une carte émotion. Ça peut être « je suis ravie » ou au contraire « je suis très énervée », etc. Et donc l'idée, c'est que le prof, après, puisse discuter avec l'élève. « Mais pourquoi tu es énervée de savoir qu'il y aura des élèves handicapés dans ta classe à la rentrée ?» Et là, ça permet de travailler aussi sur les questions d'acceptation de la différence, de discrimination, etc. Valeur en main, Willy Pierre, qui était venu il y a 2 ans ici à l'INSPE nous présenter son jeu lors de la journée d'études cyberharcèlement, il a développé une sorte de jeu de 7 familles. Il faut réunir des familles, donc il n'y a pas le père, la mère, la grand-mère, etc. C'est des valeurs ou des émotions. Et à chaque fois que l'enfant réussit à constituer une famille, le but du jeu, c'est de lui faire s'exprimer, qu'il exprime ses sentiments ou ses ressentis par rapport à telle ou telle émotion. Je ne sais pas s'il a réussi à recomposer la famille solidarité, on peut lui demander « As-tu déjà fait preuve de solidarité ?» ou s'il a réussi à réunir la famille de la patience, on peut lui demander « est-ce que tu as déjà fait preuve de patience ?» ou au contraire « est-ce que tu as déjà été impatient ?» Et ça lui permet comme ça de revenir sur un souvenir émotionnel. On a tout ce qui est lié au théâtre. Alors le jeu des 3 figures de Serge Tisseron, pardon, que vous connaissez peut-être, ça se joue aussi à 3. Les élèves, par groupe de 3, inventent un petit scénario avec un agresseur, une victime et le sauveur qui va réparer le tort et sauver la victime. Et il faut que les élèves, en fait, jouent tour à tour les 3 rôles. Comme ça, ça permet à la victime de se mettre dans la peau de l'agresseur, l'agresseur dans le sauveur, etc. Et puis ceux qui ont plutôt l'habitude d'être victimes dans la cour de récré, ça leur permet, grâce au théâtre et au théâtre, d'expérimenter ce que ça fait d'être dans une position d'agresseur ou de sauveur. Le théâtre de Serge Tisseron, il est inspiré du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, qui est un dramaturge brésilien qui a créé cette forme de théâtre où on présente une situation sociale, sociétale assez dramatique et on demande aux spectateurs d'intervenir. Donc les comédiens jouent une première scène et ça se fait de plus en plus dans les établissements scolaires, pas que pour le harcèlement, ils le font aussi avec les addictions, je sais pas, la drogue. Les comédiens jouent une scène qui est sur le point de très très mal se finir, et on fait stop, et là on demande à des élèves volontaires de venir sur scène et de modifier le scénario pour que l'issue soit positive. Donc ça fonctionne aussi, c'est une activité théâtrale qui permet aux élèves d'exprimer leur ressenti, leur opinion, leur émotion. On sait que l'empathie peut être développée au sein des musées. Vous avez 2 initiatives, donc je vous mets Musée Fab de Montpellier, Fédération Nationale, OCCE. C'est des dispositifs donc, de l'éducation nationale en lien avec des musées qui donc, s'intitulent « Les émotions à l'œuvre », notamment dans la ville de Montpellier. Et autre expérimentation qui a été menée par Omar Zana, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Quand l'empathie prend corps ». Donc les émotions à l'œuvre, ce sont une proposition de séquence pédagogique qui a pour but d'emmener les élèves au musée et de leur permettre, le temps de la visite, de verbaliser leurs émotions à travers les œuvres d'art qu'ils sont en train de regarder. On peut leur demander quelle est leur œuvre d'art préférée dans le musée et puis de nous expliquer ce qu'ils ressentent à la vue de cette œuvre d'art. Puis d'imaginer ce que le peintre a bien voulu faire ressortir comme émotion quand il a peint ce tableau. Pour l'empathie prend corps, l'idée c'est de mimer le tableau. Donc on demande aux élèves de choisir leur tableau préféré et on leur demande de reproduire la scène. Et ensuite les autres élèves, les spectateurs, ils sont invités à venir modifier la posture de l'élève pour que le tableau soit le plus parfait possible. C'est un peu inspiré du jeu des figures. Dans le jeu des figures d'Omar Zana, l'élève, ça se joue en binôme, doit créer une... En fait, j'ai mis le jeu des figures, mais c'est le jeu des sculptures. L'élève doit créer une sculpture avec le corps de son camarade. Donc, il doit faire une sculpture, je ne sais pas, n'importe quoi. On va dire il veut sculpter un arbre, donc il doit prendre le corps de son camarade et le mettre dans une position d'arbre. Pourquoi Omar Zana nous dit ça éduque à l'empathie? Ben là, c'est l'empathie par le corps, parce que ben, quand vous êtes en train de toucher le corps de votre camarade en public, vous devez quand même être attentif à ce qu'il est en train de ressentir. Est-ce que son visage vous montre que là, vous êtes en train de le mettre dans une position physique qui le met très mal à l'aise? Auquel cas, il va falloir modifier votre sculpture. Et donc, c'est une expérimentation que Zana a développée, poursuivie au sein du musée, donc dans son dispositif « Quand l'empathie prend corps ». Donc, je vous disais, vous mimez un tableau, donc vous reconstituez une sorte de, voilà, de mime du tableau, et les spectateurs viennent vous toucher ensuite pour faire en sorte que votre position ressemble le plus possible au tableau. Donc c'est la même chose, les spectateurs doivent être attentifs à votre visage pour pas vous toucher et vous mettre de main, enfin voilà, que vous soyez dans une position inconfortable. Donc ça, c'est pour l'empathie. Les situations peuvent être aussi traitées par l'empathie et par les émotions d'une certaine manière. Et là, je citerai la méthode PICAS. Hein, donc Anatole PICAS, c'est un des premiers théoriciens du harcèlement scolaire en Scandinavie, hein, dans les années 70, qui a développé une méthode qui préconise le dialogue et l'empathie chez les élèves pour traiter les situations de harcèlement. C'est-à-dire quand une situation de harcèlement est avérée au sein d'un établissement, cette méthode préconise de convoquer un par un les soi-disant agresseurs, harceleurs, et de discuter avec eux de la situation qu'est en train d'endurer leurs camarades. En fait, c'est une méthode dite de la préoccupation partagée, puisqu'il s'agit de réfléchir avec les agresseurs aux solutions qu'on pourrait mettre en place pour que justement l'élève victime, l'élève harcelé, ne soit plus jamais harcelé. Donc il s'agit d'une certaine manière de leur faire prendre conscience des conséquences de leur acte et aussi de leur permettre de se mettre à la place de leur victime. Et l'autre dispositif que je cite, qui est moins lié aux émotions, mais qui est vraiment, à mon sens, important, c'est vraiment cette idée de médiation par les pairs. Ça se développe de plus en plus. Depuis 2015, vous avez au sein des lycées un dispositif qui s'intitule « Ambassadeur lycéen contre le harcèlement ». 3 élèves par lycée se portent volontaires pour être, au cours de l'année scolaire, ambassadeurs contre le harcèlement. C'est-à-dire qu'ils vont, en partenariat avec les équipes éducatives, organiser des événements au sein de leur lycée relatifs au harcèlement, cyberharcèlement. Mais on leur demande également d'intervenir dans les collèges et dans les écoles primaires de leur district, entre guillemets. Donc voilà, ce sont eux les médiateurs. C'est pas mal. Parce qu'on sait que pour des adolescents, parfois, c'est plus facile de recevoir le discours et la parole d'autres adolescents plutôt que le discours du CPE, du proviseur, du prof de français qui dit « il faut pas, c'est pas bien », etc. Et moi, je l'ai mis là, je vous le présente aujourd'hui dans ma diapo « Empathie, émotion », parce que je sais que ces lycéens, quand ils sont amenés à faire des interventions, ils prennent la parole, ils peuvent très bien être là à ma place et parler devant leurs camarades. Et c'est aussi une façon pour eux d'apprendre à gérer la parole en public. C'est aussi une manière de gérer leurs émotions, leur timidité, le tract, etc. Eh bien, j'ai fini. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne 2 références. Donc, les références bibliographiques dont j'ai parlé, que ce soit tout à l'heure, il y avait Dana Boyle, il y avait Nicole Kathleen, etc. Vous retrouverez tous les ouvrages sur mon blog. Il s'appelle e-violence sur hypothèse. Dans l'onglet bibliographie, il y a plein de sources. Et puis, plus récemment, comme vous le savez peut-être, j'ai publié un petit ouvrage aux éditions CF qui s'intitule « Cyberharcèlement, sortir de la violence à l'école et sur les écrans ». Et en gros, mon livre, il suit exactement la trame du diapo que je viens de vous présenter, de manière bien sûr plus développée. Et les différents jeux, les différents dispositifs, les différents cas de figure que je vous ai présenté, si ça vous intéresse, vous les retrouverez également dans ce livre. J'ai terminé, merci beaucoup.